Bon, je me présente rapidement, hein. Jean Flucher, je suis jeune encore, puisque je n'ai que 74 ans, et je fais pas mal de petites conférences comme celle de ce soir sur des sujets que je connais, parce que je connais pas tous les sujets. Ce sujet ce soir, bon, ben, il fait appel à 40 ans de vie professionnelle. Alors, c'est vrai que nous, qui avons baigné là-dedans, ça nous paraît simple, mais pour vous, ça peut à certains moments vous paraître compliqué. Donc, on n'est pas très nombreux. Si à un moment donné il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre pour que on puisse éclaircir le sujet et ne pas attendre la fin de la conférence pour revenir au milieu du sujet. Supélec, je suis rentré à EDF, j'ai fait toute ma carrière à EDF. D'abord 2 ans dans le charbon, dans une centrale lorraine qui est Blénod-les-Ponts-à-Mousson, qui avait 4 tranches de 250 MW. Pour vous donner une petite idée, 4 fois 250 MW à faire tourner, c'est une tranche de 1000 MW nucléaire, eh bien, il nous fallait brûler 10 000 tonnes de charbon par jour. Donc, vous voyez que c'est 10 000 tonnes de charbon par jour brûlées, ça fait des dégâts sur l'environnement. Ensuite, j'ai passé 2 ans, on m'a envoyé faire le génie atomique pendant 1 an, et j'ai été nommé ingénieur de démarrage, ingénieur physicien de démarrage de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est en ce moment en pointe. Et ensuite, après Fessenheim, on m'a envoyé créer un centre de formation sur le site de la centrale nucléaire de Bugey, le centre de formation de Bugey, qui avait pour objectif, pour mission, de former l'ensemble des personnels qui allaient démarrer les centrales nucléaires françaises. Donc j'ai passé 6 ans à la direction de ce centre de formation. Au bout de 6 ans, on m'a nommé directeur adjoint du site du Bugey, puis directeur en 88, et en 95, on m'a nommé directeur régional d'EDF en Rhône-Alpes. Et puis depuis 2002, je suis à la retraite, donc, mais je m'occupe beaucoup. Je m'occupe beaucoup. Alors là, je vais vous parler du système électrique, pas du réseau électrique, mais du système électrique, parce que vous allez voir que c'est un système assez vivant et de son fonctionnement. Donc, j'ai fait des diapos simples, mais après, vous verrez que la réalité est souvent plus compliquée que les diapos simples, mais les diapos simples permettent de comprendre ensuite la réalité. Là, je vous ai mis le penseur, hein, parce que quand on se met à réfléchir à comment ça fonctionne, ce truc-là, et pourquoi ça ne s'écroule pas toutes les 5 minutes, c'est que c'est vraiment un sujet un peu compliqué. Alors, un système électrique, c'est simple. Voilà. C'est une boucle qui est alimentée en puissance par, vous voyez, à l'extérieur des alternateurs, quoi. Et puis, au milieu, ben, vous avez des récepteurs. Donc, comme l'a dit le présentateur tout à l'heure, le rôle de cette boucle, c'est à tout moment d'équilibrer la production avec la consommation. Et vous savez que tout ça tourne à 300 000 km par seconde, donc c'est quand même une belle prouesse d'y arriver. Alors, ici, bon, la première question qui s'est posée il y a un siècle, même un peu plus d'un siècle, c'était est-ce qu'on doit faire ces systèmes électriques en courant continu alternatif ou alternatif ? Les transports doivent se réaliser en très haute tension pour limiter les pertes. Ça, c'est un premier point. Mais les générateurs électriques sont limités en tension pour des problèmes de diélectrique à l'intérieur des alternateurs. Et la tension maximum sur nos alternateurs actuels, c'est 24 000 volts. Or, le transport doit se faire en 400 000 volts. Donc, passer du 24 kV au 400 kV, ben ça veut dire qu'il faut des transformateurs, et un transformateur, ça ne marche qu'en alternatif. Bon, donc on a des transformateurs élévateurs de tension, puis après on en a qui sont des abaisseurs de tension. Un transformateur, c'est une machine statique, mais ça ne fonctionne que s'il est alimenté en courant alternatif pour faire varier le flux dans le circuit magnétique. Et cette variation de flux permet de transmettre la puissance d'un enroulement vers l'enroulement récepteur. Et ce sont ces variations de champ qui induisent sur un roulement secondaire une transformation plus élevée ou moins élevée. Tout dépend de comment on les fait fonctionner. Ce sont des machines réversibles, instantanément, donc les transformateurs sont réversibles. Sur le continent européen, alors les réseaux de très haute tension, alors, je vous parle de l'électricité, il y a trois éléments à avoir dans l'électricité. Il y a la tension, c'est-à-dire la différence de potentiel. Il y a l'intensité, elle apparaît pas pour l'instant, mais elle apparaît après. Et puis, il y a la fréquence. La fréquence, là, c'est 50 cycles par seconde, ce qu'on appelle du 50 Hz. À l'époque où ça s'est décidé, vous aviez deux ingénieurs aux États-Unis. Il y avait d'un côté un ingénieur de Westinghouse qui était Edison, de General Electric qui était Edison, et qui, lui, était un chaud partisan de l'alimentation de la boucle en courant continu. Et puis vous aviez de l'autre côté un théoricien de génie, Tesla, qui travaillait, lui, pour Westinghouse, et qui a soutenu le courant alternatif, et c'est Tesla qui l'a emporté. Donc Tesla, c'est le père, je dirais, du courant alternatif et de l'électromagnétisme. Donc c'est Tesla qui l'a emporté. Mais ceci étant, on voit revenir depuis quelque temps des courants continus pour de très longues lignes. Mais ça pose quand même quelques problèmes. On sait les résoudre aujourd'hui. Alors, le principe du transformateur, il existe depuis 1837. Donc, vous voyez que c'est pas une invention récente. Sachez que Tesla, qui était d'origine russe, a déposé je ne sais combien de brevets pour Westinghouse, et il est mort dans la misère totale. Parce que ces brevets ont rapporté beaucoup d'argent à Westinghouse et lui ont pas permis de vivre à lui. Voilà, donc Tesla, il y a un bouquin sur Tesla qui mérite d'être lu, qui raconte sa vie et qui est très très bien fait. Bon, donc vous avez vu que la boucle est alimentée. Elle alimente elle-même. Bon, on envoie de la puissance sur la boucle, on récupère cette puissance sur les récepteurs. Pour que ce soit à l'équilibre, il faut qu'à tout instant, eh bien, on accorde la puissance produite à la puissance consommée, parce que ce qu'on maîtrise, c'est la puissance produite. Par contre, ce qu'on maîtrise pas du tout, c'est la puissance consommée. Donc, la puissance consommée, quand elle varie, elle va avoir des effets qui vont avoir des conséquences, notamment sur la fréquence. Alors, vous le verrez tout à l'heure, on en parlera un peu plus loin. Bon, le réseau bouclé est en 400 kV, en courant alternatif. C'est la structure la plus robuste qu'on connaisse. Et puis, il a des mailles. Vous allez voir tout à l'heure, je vous ai fait qu'une boucle, mais vous allez voir le réseau français, il est maillé. Et puis, il a des sous-boucles qui sont au-dessous. Et il a un deuxième réseau au-dessous qui est en 225 000 volts. Donc, le 400 kV alimente quelques récepteurs, mais il alimente surtout, via des transformateurs, le réseau de 125 kV. Vous allez voir pourquoi, c'est assez simple à comprendre. Alors là, c'est le réseau français. Voilà. Voilà le réseau 400 kV, dont je vous ai fait une boucle tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas si simple que ça quand vous le regardez. Vous voyez que tout ce réseau est interconnecté. Bon, je vais prendre la partie qui va de la Gaudière à Aiguzon, à côté de Bordeaux, et qui fait le tour. Vous avez une boucle là. Ça, c'est la structure la plus robuste. C'est la structure des boucles. Mais vous voyez qu'il y a deux endroits en France où on n'arrive pas à boucler. C'est la Bretagne, où on a une antenne qui part et qui arrive en haut de la Bretagne et une antenne qui part de Cordemay et qui arrive à côté. Et là, on n'arrive pas à boucler, d'où le problème breton que nous avons et que nous redoutons à tout instant. Quand vous avez parlé de 19 décembre 78, tout simplement, c'est la consommation d'électricité dans l'Ouest, notamment en Bretagne, était très importante. On n'avait pas encore le parc électronucléaire. On était interconnectés avec les Allemands. On a eu un apport important de courant depuis l'Allemagne. Et à un moment donné, eh bien, le réseau s'est effondré à cause de cette absence de boucle en Bretagne. Et vous en avez une deuxième qui est sur PACA. Vous voyez que PACA est alimenté par une boucle, par une antenne qui va en gros d'Aramon à Broc-Carros, et on veut boucler depuis un certain temps, depuis en gros Cadarache sur Broc-Carros, et on n'y arrive pas parce qu'il y a des oppositions locales. Vous savez, tirer un réseau aérien, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Il faut palabrer pendant des mois, des années. Et alors on a contre nous à la fois les élus, on a contre nous la population, etc., les Verts et tout ce qui suit. Et pardon ? Eh bien, pardon.
On ne peut pas boucler avec les Italiens.
Ah oui, mais alors les Italiens, le problème, c'est qu'ils sont en déficit permanent. Alors vous allez le voir, hein, il y a deux pays qui sont en déficit permanent, c'est les Anglais et les Italiens. C'est un vrai problème. Alors comment on fait de l'électricité ? Ah ben tiens, je l'ai mal posé. Pour faire de l'électricité, c'est extrêmement simple. Vous prenez un aimant ou un électro-aimant, vous le faites tourner devant des bobines, et puis cet électro-aimant que vous avez alimenté va induire dans les bobines une tension. Et cette tension, ben, vous la faites débiter sur un récepteur, et là, vous avez fait du courant électrique. Alors, bien entendu, ça, c'est hyper simple. La réalité, c'est que il faut conduire le flux magnétique le plus simplement possible. Donc, on va avoir des tôles qui conduisent le flux magnétique, c'est-à-dire que l'électro-aimant, il est au milieu et vous avez tout un circuit magnétique du stator, et dans le stator d'un alternateur, vous avez les bobines réceptrices avec le courant qui va être amené. Donc, vous voyez que c'est quelque chose. Faire tourner des électro-aimants devant des bobines, c'est la façon la plus simple. Alors, ce qu'on dit, c'est que l'électro-aimant, c'est l'inducteur. Donc, il est alimenté par un courant, on verra tout à l'heure, qui est le courant inducteur. Et les bobines qui sont dans le stator, ce sont les induits qui, eux, vont être bouclés sur les transformateurs et alimenter le réseau. C'est une façon simple, mais voilà la réalité. La réalité, là, voilà, vous avez le groupe turboalternateur, là, c'est celui de Flamanville. Alors, vous voyez, de la partie droite, là-bas, trois ensembles orange qui sont assez volumineux. Vous ne voyez pas la partie extrême à la droite. Donc, la partie extrême, c'est la partie haute pression du groupe turboalternateur. Ensuite, vous avez les trois parties basse pression de ce groupe turboalternateur, et vous avez l'accouplement avec l'alternateur qui se trouve en fin de ligne. Et l'excitatrice, c'est-à-dire la machine qui va produire le courant inducteur, se trouve à l'extrémité, mais on la voit pas bien sur cette photo. Donc voilà, on passe rapidement d'une disposition relativement simple à comprendre à une disposition qui est industrielle, parce que ce groupe turboalternateur à Flamanville produit 1300 mégawatts. Donc c'est quelque chose d'important. Alors, vous avez la même chose dans l'hydraulique. Or, j'ai pris cette photo parce qu'elle est jolie. C'est la centrale de Montépin. et elle est souterraine. Alors ce que vous voyez là, sur cette partie en haut là, qui fait un peu moule à flanc, c'est la partie de l'excitatrice, c'est-à-dire la partie qui va produire le courant inducteur. Tout l'alternateur se trouve au-dessous, et au-dessous de l'alternateur, vous avez les turbines à eau qui fonctionnent et qui entraînent le tout en rotation. Voilà. Donc, vous voyez que suivant que l'on est avec de la vapeur ou avec de l'eau, on a des machines différentes, bien entendu, mais on a, c'est le même principe qui est adopté.
Oui, j'avais une question. Le groupe turbo-alternateur de flamme 8, c'est 3000 turbines.
Pardon ?
Ce que je disais, le groupe turbo-alternateur.
Ah là, vous ne les voyez pas. Il est dessous.
Non, de Flamanville.
Ah oui.
C'est du 3000 tours minutes.
Pardon ?
La turbine et l'alternateur tournent à 3000 tours minutes.
Non, non. Alors, nos alternateurs de centrales nucléaires ont 4 pôles, enfin 2 paires de pôles. Ça veut dire qu'ils tournent à 1500 tours minutes. Mais quand j'étais à Blénau, les alternateurs de 250 MW tournaient à 3000 tours minutes. Alors, pour expliquer à tout le monde, 3000 tours minutes, ça fait directement du 50 Hz. Quand vous êtes à 4 pôles ou 2 paires de pôles, à 1500 tours, vous produisez du 50 Hz, du 50 cycles par seconde. Alors, le couple moteur, d'où vient l'énergie ? Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais pour faire retourner l'inducteur, il va bien falloir, à un moment donné, entraîner cet inducteur. Donc, il va falloir avoir de l'énergie, et cette énergie, ben, c'est une transformation énergétique qui se fait d'une énergie potentielle, qui peut être, pour l'hydraulique, une hauteur de chute, hein, qui va entraîner la turbine, ou pour un alternateur de centrale nucléaire, eh bien c'est la turbine à vapeur qui va envoyer, on va envoyer de la vapeur sur la turbine à vapeur qui va transformer l'énergie potentielle contenue dans la vapeur en énergie rotative de couple qui va entraîner le rotor de l'alternateur. Et on a donc là toute la partie du fluide moteur qui va alimenter. Bien entendu, quand vous êtes à 10 MW, vous avez très peu de vapeur qui arrive ou très peu d'eau qui arrive. Quand vous êtes à 1300 MW, là, vous avez pratiquement les robinets grands ouverts d'admission de vapeur sur la turbine. Il y avait une question ? Non ? N'hésitez pas. Hein. Alors, vous voyez, le stator comporte les bobines de l'induit, ça je l'ai déjà dit. Le rotor porte les électroaimants. La fréquence du réseau, elle est fixée par la vitesse du rotor devant le stator. C'est ça qui va déterminer la fréquence qu'on va sortir en courant. Tant que la machine n'est pas couplée au réseau, c'est-à-dire au moment où on va la lancer, bien, en ouvrant très légèrement les vannes vapeur ou les vannes d'eau, on va avoir le rotor qui va monter en vitesse. Puis, quand le rotor sera à la vitesse nécessaire, ça se mesure en regardant la fréquence de la tension qui apparaît aux bornes du stator. À ce moment-là, on équilibre les phases, c'est-à-dire on recherche la concordance des phases avec la concordance du réseau, et puis on couple la machine sur le réseau. Et puis après, on admet de plus en plus de vapeur pour monter en puissance sur la machine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en électromagnétisme, je vous ai dit que tout était réversible, c'est réversible aussi pour l'alternateur. C'est-à-dire que quand vous faites tourner la machine, vous avez de la tension, de l'intensité qui apparaît sur l'induit. Et cette tension, cette intensité qui apparaît sur l'induit provoque un flux de contre-réaction qui vient s'opposer au flux inducteur. Donc, il vous faut, en même temps que vous faites monter la puissance, que vous ouvrez les vannes vapeur, il faut que vous compensiez le flux de contre-réaction en augmentant le courant de l'inducteur. Alors, c'est une espèce de couplage magnétique qui se fait entre les deux, mais vraiment, c'est un couplage. Il n'y a pas de couplage mécanique, mais il y a un couplage magnétique. Donc, vous voyez, quand la machine est couplée au réseau, c'est fini. Là, c'est le réseau qui va fixer sa vitesse. Elle est à 50 Hz. Si le réseau descend à 49,8, eh bien, la machine descendra à 49,8. On verra tout à l'heure les moments où on est en transitoire. Donc là, vous avez à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce point. Alors, le réseau 400 000 volts, il fut un temps, pas très lointain, où moi, j'avais un directeur de la production et du transport qui disait un réseau moins il transporte, mieux on se porte. Sous-entendu, c'était faire en sorte que les points d'injection et les points de consommation soient les plus proches possibles. Le réseau de transport, c'est un réseau qui interconnecte les appareils et donc on n'a pas la volonté de transporter énormément d'énergie sur ce réseau. La volonté de faire en sorte qu'il soit le plus près possible des gros consommateurs. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des réseaux maillés. Vous les avez vus tout à l'heure. On veut limiter les pertes par effet joule. Alors, on a un niveau de tension élevé, parce que si on transporte une puissance déterminée à un niveau de tension élevé, on réduit d'autant l'intensité. Et c'est l'intensité qui fait les pertes par effet joule. Donc cette perte par effet joule, on la limite en augmentant la tension à une puissance donnée pour réduire l'intensité. La puissance, c'est donnée par le produit UI, intensité par tension, ça c'est assez simple, et les pertes du réseau, alors du réseau très haute tension, ne représentent que 3% de la production nationale. Les pertes du réseau basse tension, alors celui qui vous de la distribution, lui, il fait entre 7 et 8% de pertes. Pourquoi ? Parce que c'est des petits câbles et qu'il y a un chevelu qui est important. Alors, vous allez voir l'intérêt d'avoir un sous-réseau à 225 000 volts pour assurer la sécurité à tout moment du réseau. Voilà. L'intérêt du réseau bouclé, c'est que si vous perdez un point d'injection, eh bien, ça, c'est sans effet sur le point de soutirage. Le consommateur va pas voir si sa puissance consommée vient de Tricastin, de Bugey, c'est complètement indifférent. Vous allez voir qu'il faudra quand même faire des choses sur le plan de la régulation, mais c'est comme ça. La robustesse du réseau, c'est l'effet de mutualisation, de secours, des groupes de production. Alors, au plus, sur un réseau, on a de groupes de production, au plus, le réseau est robuste. Et les électriciens, quand on fait une école d'ingénieurs d'électriciens, comme Supélec, eh bien, on développe les théories qui s'appellent les théories de réseau infini. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de sources de puissance pour qu'on considère que le réseau est plus ou moins sensible et on désensibilise le réseau. Donc, c'était vraiment le fonctionnement. Ça facilite le réglage de fréquence et ça foisonne les charges sur une zone importante. Mais le réseau réel montre que la boucle, eh bien, elle peut être conservée même en cas de perte d'un brin, à l'exception des presqu'îles électriques. Les presqu'îles électriques, c'est la Bretagne, c'est PACA. Et là, c'est très vulnérable parce que si on vient à perdre un tronçon de réseau, on perd quasiment l'alimentation de la pointe Bretagne ou l'alimentation de PACA. C'est arrivé, hein. C'est arrivé notamment en PACA avec les incendies de forêt qui avait lieu sous les lignes, eh bien, il a fallu qu'on mette hors tension les lignes pendant plusieurs heures, et toute la partie Cannes, Nice, etc., Antibes, s'est trouvée privée complètement de courant, parce que c'était un problème de sécurité des pompiers et des canadaires. Alors, la maintenance ou l'incident, c'est le débouclage pour maintenance ou incident sur un brin du réseau 400 kV. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va avoir ce sous-réseau 225 kV de telle sorte que on puisse perdre un brin du réseau 400 kV. Alors, ça peut être un incident, un coup de foudre, un aléa. Par exemple, une tempête, ça nous est arrivé, mais il faut qu'on puisse continuer à alimenter les clients qui sont au-dessous. Donc, il y a peu de clients directs sur le réseau 400 kV, la plupart des clients sont sur le réseau 225. Et vous allez voir le schéma que je vais vous montrer tout de suite, parce que ça, c'est du discours, mais le schéma parle mieux. Alors voilà le type d'incident, hein. Voilà un coup de foudre. Qui se produit, qui va se propager. Alors la foudre, bon, quand elle tombe, c'est des niveaux de tension absolument gigantesques. Donc c'est des espèces de boules de feu qui vont se propager sur les lignes électriques et qui vont ouvrir les disjoncteurs de protection aux deux extrémités d'un brin. Donc quand ça s'ouvre, eh bien, il faut que le dispositif soit suffisamment robuste pour que les clients ne s'en aperçoivent pas. Le temps qu'après, on reboucle, qu'on referme les disjoncteurs, etc., après avoir fait les vérifications. Là, vous voyez ce coup de foudre, il arrive sur un pylône dit d'ancrage, parce qu'il y a des pylônes d'ancrage et des pylônes de support. Les pylônes d'ancrage, c'est les pylônes où vous voyez les isolateurs horizontaux, parce que c'est là où on va tirer dessus. Et après, les autres, ils supportent simplement les lignes. Voilà comment on procède. Alors, la situation normale. Là, vous voyez, j'ai mis un groupe G1, un groupe G2, un transformateur T1, un transformateur T2. La situation normale, eh bien, j'ai fait figurer, c'est G2, il y a un transformateur T2, il alimente la boucle, l'interrupteur est fermé, le disjoncteur est fermé, et on alimente la boucle 225, le récepteur en bas sait pas qu'il est alimenté par ce brin plutôt que par un autre. Maintenant, si sur le brin qui va de D1 à D2, on a soit une avarie, soit de la maintenance à faire, il va falloir qu'on ouvre les disjoncteurs D1 et D2. Si je les ouvre, bien entendu, j'ai plus d'énergie qui va arriver sur le récepteur, parce que j'arrêterai aussi le G2. Hein. Si c'est pour faire de la maintenance, on est obligé de mettre en tension le point d'injection du G2. Donc vous allez voir avec le même schéma. Voilà, alors ça date de 99. Hein. Regardez la tempête de 99. Les pylônes qui paraissent très robustes, regardez, ils sont froissés comme une feuille de papier. Il suffit que vous ayez un pylône d'ancrage qui casse et c'est fini. Vous en avez 50-60 qui tombent comme ça. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Mais je reviens à celui-là. Ah. Voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure le G2 passer par T2 alimenter mon récepteur. Là, j'ai isolé la ligne 400 kV qui était au-dessus, j'ai arrêté le G2, donc j'ai isolé aussi ce générateur, et par contre, j'ai fermé la ligne verte, là, qui vient du G1, avec le disjoncteur qui est là, qui était ouvert tout à l'heure, qui s'est fermé, et j'alimente le récepteur. Donc vous voyez que en faisant des manœuvres, parce que ce sont des manœuvres très rapides avec les disjoncteurs, quand vous faites ce genre de choses, le client qui est au bout du récepteur ne s'aperçoit pas de l'opération. On a maintenu son alimentation. Alors c'est vrai pour la très haute tension, c'est un peu moins vrai pour les clients basse tension, comme vous, comme moi, parce qu'on n'est pas capable de faire ça partout. Alors voilà, j'ai dû sauter, voilà. Voilà, alors vous voyez que tout à l'heure, je vous avais présenté le réseau 400 kV en rouge. Et là, maintenant, vous voyez le réseau secondaire qui est mis en 225 kV et qui, sur lequel, la plupart du temps, le réseau 400 kV débite via des points bien déterminés, connus par les dispatchers qui vont gérer cet ensemble-là et qui vont gérer également les interconnexions. On y viendra un peu tout à l'heure. Donc vous voyez que petit à petit, on a un système qui ressemble de plus en plus à un système sanguin. Vous avez les artères, vous avez les grosses veines, puis après vous allez avoir les petites veines. Donc c'est un système sanguin, c'est clair. Alors vous avez des voies qui sont plutôt encombrées. Si vous regardez la vallée du Rhône, bon, elle est encombrée. Par contre, vous voyez comme on peut pas boucler. Sur la Bretagne, on a quand même essayé de boucler avec du 225 kV, mais ça ne résout pas complètement le problème. Hein. Et pour PACA, regardez, on a essayé aussi de boucler en 225 kV sans que ça résolve le problème parce qu'on n'a pas fait une maille en 400 kV. Alors, actuellement, il y a des projets pour faire une maille à 400 kV souterraine. Vous allez voir tout à l'heure que le souterrain, ça coûte très cher et c'est pas simple non plus à résoudre. Donc là, je vous ai mis tout ça. Bon, je vais m'arrêter puisque je l'ai expliqué. Voilà. Alors, les questions de phase. Je vous ai dit, vous avez un courant électrique, il est caractérisé par son intensité, sa tension. Bon. Mais il y a autre chose, c'est la phase. Alors, la phase, enfin, vous avez une fréquence. Donc, la fréquence, ça va être du 50 Hz, aussi bien pour l'intensité que pour la tension. Si vous débitez sur une résistance pure, ce qui est le cas de l'ampoule là-bas, ben vous voyez que là, il n'y a pas de déphasage entre l'intensité et la tension. Si vous débitez sur une impédance de type inductance, c'est-à-dire un moteur, là, les inductances, c'est-à-dire des bobines, fonctionnent comme des amortisseurs d'intensité et vous avez une intensité qui est en retard par rapport à la tension. Donc, vous avez un angle phi, et au plus cet angle phi est grand, au plus on perd de la puissance active et on fait de la puissance réactive. Parce que la puissance qui sert à magnétiser un moteur asynchrone, c'est de la puissance réactive. Par contre, si vous avez des capacités en alternatif, ce qui est le cas du haut, alors là, l'intensité est en avance sur la tension. Et là, vous allez avoir aussi de la puissance réactive. Alors, le rôle de l'électricien, c'est de dire, il faut que je réduise au maximum ces angles phi. Alors, quand vous alimentez une cimenterie, moi, j'alimentais la cimenterie de Vica à côté d'Ambérieux, la cimenterie avait énormément de moteurs et de gros moteurs. Donc, elle avait un angle phi qui était trop important. Et sitôt que vous avez un cosinus phi de 0,8, l'industriel est pénalisé financièrement. Donc, il a tout intérêt chez lui à dire, ben, si je veux ramener mon intensité sur ma tension pour réduire l'angle de déphasage entre les deux, il va falloir que je mette des batteries de capacité. Donc, c'est ce qu'il fait. Et réciproquement, si on a un circuit capacitif, vous allez voir que ça arrive. Eh bien, il faut mettre des selfs, des inductances, pour ramener l'intensité qui est en avance, pour la ramener pratiquement sur la tension. Alors, vous allez voir que ça arrive surtout pour les câbles souterrains. C'est le cas des câbles souterrains. Alors, pour une intensité en courant continu, c'est un interrupteur. Le courant continu ne passe pas à travers une capacité. Il n'y a que le courant alternatif, justement à cause de sa variation d'alternance, qui passe à travers des capacités. Donc vous avez ces éléments-là dont il faut tenir compte quand on gère le réseau. Parce que ça coûte très cher. Je vous explique. Quand vous faites de la puissance sur un alternateur, vous faites de la puissance active, si la tension est trop basse, on va vous demander de surexciter votre alternateur et vous allez faire de la puissance réactive pour compenser cette tension qui est trop basse. Mais pour surexciter l'alternateur, vous allez monter le courant d'excitation et vous allez aussi monter le courant dans l'inducteur. Donc, vous faites du réactif au détriment de la puissance active. Et vous avez un diagramme très particulier pour les alternateurs. Si vous faites trop de réactifs, ben vous êtes obligé de diminuer votre puissance active. De même que si vous absorbez du réactif parce que le circuit est très capacitif, à ce moment-là, ben vous perdez aussi de la puissance active parce que ce qui limite l'alternateur, c'est l'intensité qui passe dans l'inducteur. La somme des intensités qui sont déphasées. Donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Alors là, je vous ai mis quelque chose qu'on voit assez facilement sur les appareils qu'on a aujourd'hui. Vous voyez que là, vous avez à la fois de la tension et de l'intensité. Alors, la tension, vous la voyez à mi-chemin, là. Et puis, l'intensité, vous la voyez après. Là, vous voyez que l'intensité est en retard par rapport à la tension, puisque le pic d'intensité est décalé par rapport au pic de tension, donc vous êtes sur un circuit inductif. Et ce circuit inductif, ben, vous calculez le cosinus phi, et au plus votre cosinus phi est dégradé, au plus vous allez avoir besoin de produire de la puissance réactive au détriment de la puissance active. Donc c'est quelque chose que les électriciens n'aiment pas, parce que ben, ça, on perd de la puissance pour rien. Alors, les impédances. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on débite sur des impédances. Si on était uniquement en courant continu, ce sont des résistances. Quand on est en courant alternatif, on a des résistances, on a des inductances, on a des capacités. Donc, on va appeler la fonction qui relie les trois une impédance. Donc l'impédance, c'est l'équivalent d'une résistance, mais en courant alternatif. C'est un peu plus compliqué, mais ça revient exactement à la même chose. Alors vous voyez, les impédances, elles peuvent être soit capacitives, soit inductives. Donc dans les deux cas, on est obligé de produire de la puissance active et réactive en augmentant l'intensité dans l'inducteur. Si vous voulez augmenter, produire du réactif, il va falloir que vous surexcitiez la machine. Ce qu'on appelle le courant d'excitation, c'est le courant qui passe dans l'inducteur. Si, au contraire, vous êtes obligé d'absorber du réactif, alors là, vous allez être obligé de baisser votre courant d'excitation pour que la machine puisse absorber ce réactif. Mais tout ça se fait au détriment de la puissance active de la machine, donc c'est quand même dommage de gaspiller alors qu'on a des solutions pour les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais mes figures ont bouffé les remarques. Voilà. Donc vous voyez que les capacités font avancer l'intensité par rapport à la tension. Là, il va falloir produire de l'actif et absorber du réactif. Donc, on sous-excite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a toujours intérêt à minimiser la puissance réactive, qu'elle soit produite ou absorbée. Il faut essayer de rester en phase tension et intensité au maximum, ou très proche. Alors, on a aujourd'hui des solutions qui sont intéressantes. Alors là, voilà. Voilà un réseau en alternatif. Vous voyez que vous avez un courant qui rentre dans le fil qui est au-dessus. Il va rencontrer une impédance, une inductance, ce qu'on fait sous forme d'un tortillon, là, derrière une résistance, derrière une capacité. Et puis, ce réseau, par rapport à la Terre, il va présenter une capacité et une inductance. Donc, c'est à partir de ces calculs que on sait comment il faut gérer le réseau pour rester le plus possible en puissance active et le moins possible en puissance réactive. Un réseau aérien, il est inductif. Pas beaucoup, mais il est inductif à cause de l'inductance de la ligne et parce que la plupart des installations que l'on alimente, ce sont des moteurs. Et les moteurs sont des inductances, donc ils vont vous mettre l'intensité en retard par rapport à la tension. Les réseaux souterrains sont, pour la plupart, capacitifs. Et là, c'est dû simplement à une chose. Vous avez un câble qui est enfermé dans un diélectrique, qui est d'autant plus épais que la tension qu'on va faire circuler dedans est importante pour l'isoler de la Terre. Mais quand vous avez comme ça une ligne électrique avec un câble isolant et la Terre, eh bien ça vous fait une capacité parfaite. Donc, jusqu'à maintenant, par exemple, on savait que si on enfouissait un câble très haute tension sur 50 km, eh bien à la sortie, on mettait de la puissance active à l'entrée, à la sortie, il n'y en avait plus, il n'y avait plus que de la puissance réactive. Donc, il a fallu travailler sur ce sujet, et vous allez voir qu'on a bien avancé sur ces points-là. Ce n'est pas pour autant qu'il faut multiplier les câbles souterrains, parce qu'ils coûtent horriblement cher. C'est simple, hein. Entre une ligne très haute tension aérienne et souterraine, l'écart de prix est de 10.
Est-ce que le changement d'ampoule passive des particuliers vers les ampoules basse consommation n'a pas causé de problème au réseau ?
Attendez, j'ai pas bien compris votre question.
Est-ce que le changement d'ampoule massive des particuliers vers les ampoules basse consommation
non. N'a pas causé de problème ? Non, c'est pas les particuliers. Tous les moteurs que vous avez chez vous. Les moteurs de type machine à laver, réfrigérateur, lave-linge ou lave-vaisselle sont des inducteurs, sont des impédances, des inductances. Mais d'abord, ça marche pas en continu, à l'exception du réfrigérateur, parce que c'est le réfrigérateur qui marche le plus chez vous, et ça représente pas des déphasages conséquents. Et les ampoules, les ampoules, les premières ampoules dites à faible consommation parasitaient considérablement le réseau. Et ça, c'est un problème parce que ça induit des harmoniques et qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Vous n'avez plus d'ondes pures, c'est ça. Et mais vous allez voir qu'avec les panneaux photovoltaïques, ça nous pose de gros problèmes. Alors, comment on va faire avec ça? Bon, on va essayer de ramener... Tous mes trucs sont déplacés. On va essayer de faire en sorte que on ramène l'intensité sur la tension. Alors, voilà un schéma. Là, vous avez une ligne souterraine ou sous-marine. C'est pareil, parce que les lignes sous-marines sont ensouillées, en gros, dans la vase sous-marine, sous une épaisseur de vase d'environ 1,50 m, parce que sinon, les ancres, de temps en temps, démolissent les câbles. Donc, vous voyez, au départ, vous avez mis de la puissance active. Et puis derrière, tout ce dit électrique, c'est des capacités réparties le long du câble, entre la terre et le câble. Donc, vous voyez que, au fur et à mesure, le courant se met en avance, mais il se met en avance de telle sorte que la puissance apparente reste la même, mais quand vous sortez de la ligne, vous n'avez plus que du réactif. Bon, donc, on ne peut pas faire de l'enfouissement sur de très grandes distances, sauf maintenant avec des opérations de type fax. Alors fax, c'est un anagramme anglais qui consiste à mettre en parallèle avec ses capacités des inductances qui sont télécommandées par le déphasage de l'intensité. C'est-à-dire que si l'intensité se déphase, au fur et à mesure, vous mettez des inductances en parallèle avec ces capacités et vous ramenez l'intensité sur la tension. Ça coûte horriblement cher, mais ça marche. Et il y en a alors des modèles de toute nature. Vous avez Alstom qui en fait, par exemple.
C'est pour ça qu'ils ont fait une ligne en courant continu entre l'Espagne et la France ?
Alors, tout à fait. Alors, pour éviter ça, vous pouvez passer en continu. Alors, le problème du continu, entre l'Espagne et la France, ou entre l'Angleterre et la France, c'est qu'il vous faut avoir une station de conversion au départ qui fait passer votre alternatif en continu. Vous alimentez le câble en continu, donc vous n'avez plus du tout cet effet. Vous n'avez plus que l'effet résistif. Et de l'autre côté, vous avez une station de conversion qui reprend le continu, qui va l'onduler et qui va le passer en alternatif. Mais il faut que vous prévoyez que ça marche dans les deux sens. Donc il vous faut deux stations de chaque côté. Et les stations coûtent très cher. Alors nous venons d'avoir, je crois que c'était jusqu'à cette semaine, au mois de décembre ou novembre, il y a un bateau qui s'est trouvé en difficulté dans la Manche, qui a été obligé de se stabiliser en mettant son ancre, et son ancre s'est enfouie, et elle nous a arraché la moitié des câbles de liaison avec l'Angleterre. Donc, la liaison France-Angleterre, qui est capable de transporter 2000 mégawatts, s'est trouvée réduite à 1000 mégawatts au maximum. Depuis hier, j'ai regardé, on a retrouvé la capacité des 2000 MW. Donc je pense que les câbles ont été réparés et qu'on a repris la puissance nominale. Pardon ?
Ça se passe à quelle tension
Alors ça se passe à des tensions relativement élevées. Hein. Ça se passe à des tensions continues qui sont à minima de 400 kV et souvent plus. Parce que ça limite l'intensité, donc ça limite la perte par résistive.
Il y a le problème des isolants quand même.
Oui, ça pose des problèmes, bien sûr. Mais bon, quand vous ensouillez des câbles sous-marins, vous êtes toujours, vous courez le risque d'avoir un bateau qui va vous arracher votre câble. Ben, à ce moment-là, faut le réparer, quoi.
Il
n'y a pas des.
Il n'était pas question de passer dans le tunnel.
Alors, je vais vous en parler. Quand on a fait cette station, le tunnel, bon, c'était encore dans les limbes. Ça faisait 150 ans qu'on en parlait, ou depuis Jeanne d'Arc. Donc, à un moment donné, les Anglais avaient vraiment besoin de cette liaison. On a fait cette liaison sous-marine. Actuellement, le tunnel existe, mais il n'a pas été prévu pour passer le câble. Donc, on doit doubler la puissance avec l'Angleterre et on va refaire une liaison à courant continu avec station de conversion. Et on va faire une autre avec l'Irlande directement. Alors là, le câble va être beaucoup plus long parce qu'il va partir de la côte normande pour rejoindre l'Angleterre. Et sur l'Espagne et la France, on a longtemps eu un projet en ligne aérienne qui s'est heurté à des difficultés d'acceptation sociale, etc., jusqu'au jour où on a dit « bon, il faut résoudre le problème » et on a fait un tunnel spécialement pour le câble. Et là, c'est un câble aussi continu. Et on a un autre projet qui est le projet d'utiliser le tunnel du Fréjus pour augmenter la capacité d'interconnexion avec l'Italie. Parce que là, on est limite chaque fois. L'Italie est toujours déficitaire en production, donc elle tire de partout et on est limité par les lignes actuelles. Et on ne peut pas passer en aérien.
Le tunnel du Fréjus, c'est vous prévu pour...
Pardon ?
Le tunnel du Fréjus, c'est prévu pour...
Alors ?
C'est le deuxième tube.
Alors, bon, écoutez, c'est... Le projet, il y a un accord entre RTE et la société du tunnel du Fréjus. Maintenant, le tunnel du Fréjus, je ne sais pas si on le verra dans 10 ans, hein, s'il sera opérationnel. Là, il n'y a que les descenderies qui sont faites, et puis il y a des oppositions hein, sérieuses. Donc, on va voir.
Quelle est la section des câbles en courant continu, par exemple, sur la ligne entre la France et l'Angleterre ?
C'est des sections où, en gros, alors, ce qui vous limite, c'est la densité de courant dans le cuivre, ou dans l'aluminium, parce que c'est souvent aussi un aluminium. Donc, vous avez des densités de courant admissibles, sinon, après... vous avez des échauffements importants qui détruisent le diélectrique. Donc il faut que le diélectrique reste en bonne santé et donc vous devez limiter les échauffements. Alors, pour limiter les échauffements, ben, vous limitez la résistance et pour limiter la résistance, vous augmentez le diamètre d'aluminium que vous allez mettre dans le câble. C'est le seul moyen... d'éviter de faire vieillir, parce que les diélectriques aussi, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le diélectrique qui est soumis à cette différence de tension, au bout de quelques années, il vieillit, il durcit, et il devient moins diélectrique, et donc on a des fuites de courant qui partent directement par le diélectrique, et il faut changer carrément le câble. Et ce sont des câbles qui sont chers, hein. Comme les stations de conversion sont chères. Ce sont quand même des machines qui sont chères.
On n'a pas fait des essais en SF6 ?
Pardon ?
On n'a pas fait des essais en SF6 ?
Ah non, non, non. Alors, sur ces câbles-là, on n'a pas fait d'essais en SF6, tout simplement parce que l'hexafluorure de soufre est quand même un gaz qui n'est pas très sympathique. Hein. C'est un gaz qui est... très toxique, et nous avons des barres, nous entre les alternateurs et le transformateur, nous avons des barres qu'on ne voit pas, qui sont enfermées dans des tubes d'acier complètement étanches, et là, pour faire le diélectrique avec le tube d'acier, on a de l'hexafluorure de soufre. Et d'ailleurs, le petit incident qui s'est produit à Flamanville, c'est un problème de... Il y a eu une fuite de SF6. Hein, donc, ça a été ça qui a été l'incident, et pas du tout l'hydrogène. Alors maintenant, on va parler un peu de la fréquence. Alors là, vous avez le droit de m'interrompre autant que vous voulez. La fréquence, c'est l'indicateur de l'équilibre entre la consommation et la production. C'est l'indicateur. Tant que nous restons à 50 Hz, nous avons un équilibre parfait de consommation et de production. Sitôt que la consommation vient à augmenter, parce qu'il y a une usine qui se met en route, on va avoir une fréquence qui va baisser, si on ne fait rien côté production. Sitôt qu'on va avoir des consommations qui vont s'alléger, au contraire, la fréquence va augmenter. Donc la fréquence, moi, je la présente de la façon suivante. Si vous êtes avec votre voiture sur la route, vous êtes sur du plat, vous roulez à 110 km à l'heure, sans toucher à la pédale d'accélérateur, bon, vous êtes en vitesse stabilisée. Voilà. Vous arrivez sur une côte. Si vous laissez le pied sur l'accélérateur dans la même position, eh bien, votre vitesse va baisser. Là, la vitesse, c'est exactement le système du réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez admettre plus de carburant dans votre moteur en appuyant sur l'accélérateur pour maintenir la vitesse, si vous voulez la maintenir. Par contre, quand vous êtes en haut de la côte et que vous allez descendre, à ce moment-là, vous allez avoir la voiture qui va filer seule et vous allez relever le pied de l'accélérateur et vous allez réduire votre admission de carburant. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe pour l'électricité. Alors, tout ça, eh bien, il faut l'équilibrer dans des temps extrêmement courts. Et vous allez voir qu'on a des systèmes automatiques qui nous permettent de le faire. Parce qu'en plus, on a des exigences. Alors, ce qu'on appelle les règles du réseau, puisqu'on est en Europe, on appelle ça des grid codes, mais c'est les règles du réseau. Et il faut que sur toute la partie ouest européenne, qui est interconnectée, on ait exactement les mêmes moyens de régler la fréquence. Vous allez voir tout à l'heure comment ça se passe. Voilà. Alors, elle est fixée à 50 Hz en Europe. Bon, elle est fixée aussi à 50 Hz en Angleterre, hein, contrairement à ce que qui est répandu de temps en temps. Les gens disent non, les Anglais sont à 60. Non, ils sont à 50 Hz. Le pays le plus bizarre, c'est le Japon. Le Japon, où vous avez le sud du Japon qui est à une fréquence et le nord qui est à 60 ou le sud qui est à 50 ou l'inverse. Voilà. Bon. Alors, pour coupler ces deux trucs, c'est pas de la tarte. En Europe, on est fixé à 50 Hz. Et on a une tolérance maximum pour tous les réseaux interconnectés de l'UE. Alors, vous allez voir que dans l'UE ne sont pas encore interconnectés les pays baltes. On a une tolérance de 0,5 Hz à la hausse ou à la baisse. C'est tout. Mais on reste toujours inférieur à cette... parce que c'est vraiment la tolérance maximum. Moi, j'ai vu le réseau russe, auquel a été raccroché Kozloduy, à 48,5 en plein hiver. Hein, et ils n'arrivaient pas à remonter à 50 Hz. S'il y a plus de demandes que d'offres, bah, la fréquence va baisser. A contrario, si l'offre est supérieure à la fréquence, à la demande, la fréquence augmente. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, voilà, c'est l'histoire du freinage ou de l'accélération. Alors, comment on fait ?
Pardon. S'il vous plaît, qui pilote la vitesse de rotation de tous les alternateurs ?
Alors, vous allez voir comment ça marche. Ils sont en pilotage automatique. Ils sont en pilotage automatique et ils ont une régulation. Alors, je vous fais voir. Ça, c'est un cas réel. Voilà. Là, on a eu un aléa de production, c'est-à-dire une tranche qui s'est effacée du réseau, hein, qui est passée en arrêt automatique. Et vous voyez que l'arrêt automatique s'est produit, en gros, à 11h14. Donc, vous voyez que la fréquence a brutalement baissé, mais brutalement baissé de 50 à 49,88. Donc 12 millihertz. Et que derrière, alors vous avez une partie où vous voyez là l'inertie des systèmes tournants. Tous les systèmes tournants amènent de l'inertie sur le réseau. Donc pendant un certain temps, c'est l'inertie et ensuite c'est la régulation primaire de la machine, des machines, de toutes les machines, qui va jouer pour remonter à 50 Hz. Ça, c'est un exemple tout à fait réel, perte de 2800 MW, et ça arrive. Et ça arrive, et des fois on perd plus. Alors, le décalage de la fréquence, premièrement, la prévision. Vous voyez que ce que nous envoie RTE. RTE nous dit, voilà, les prévisions de charge pour la journée de demain, ça, c'était le 18, ils nous ont donné les prévisions de charge pour le 19-2. Donc, à partir de là, ils vont dire, ils vont prendre les tranches par ordre de coût. Les coûts les plus bas, etc., puis on va avoir les coûts les plus hauts. Et ils vont dire, à toutes les tranches, voilà ce que vous devez faire comme puissance demain dans la journée. Et puis, on corrige au fur et à mesure. Mais on a déjà une prévision qui est actualisée au jour J. C'est-à-dire que au jour J, vous pouvez avoir une légère variation par rapport à ça. Alors, comment fait RTE ? Ben, il utilise ses bases de données statistiques et les données météo. Alors, les données météo, ça peut jouer énormément, notamment sur la nébulosité. La nébulosité fait que, des fois, vous restez éclairé dans la journée, presque toute la journée, et si on ne l'a pas bien prévu, ben, la consommation est en augmentation. Au contraire, si on avait prévu de la nébulosité et qu'elle ne se trouve pas, eh bien, on va faire réduire. Alors ça, c'est la prévision qui est donnée dans chaque salle de commande aux opérateurs en disant, voilà, le programme à suivre pour demain. Alors, là maintenant, on rentre dans le transitoire. Vous avez une situation imprévue qui se produit, c'est-à-dire que, par exemple, la production va être inférieure à la consommation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une tranche qui s'est effacée, ce qu'on appelle effacée, ou qui est passée en arrêt automatique. Et du coup, l'ensemble des machines tournantes raccordées au réseau va amortir cette baisse de puissance, cette baisse de fréquence. Et puis, vous avez le réglage primaire. Je vais vous le faire voir sur la diapo d'après. Le réglage primaire, ce sont les automatismes de toutes les machines synchrones, c'est-à-dire de tous les alternateurs, qui va ouvrir les robinets d'admission de vapeur ou d'eau pour accroître le couple moteur ou les referme s'il faut les fermer. Mais ce n'est pas la position du robinet que vous réglez. C'est la quantité de vapeur qui va rentrer dans la turbine ou la quantité d'eau qui va rentrer dans la turbine hydraulique. C'est le flux de moteur que vous augmentez. C'est la quantité de flux de moteur. La position du robinet, c'est simplement pour faire rentrer plus ou moins de flux de moteur.
Comment on tranche entre les deux ? Parce qu'il y a à la fois de la production par l'hydraulique, la production par le thermique. Et lequel apporte sa capacité de régulation en premier ?
Pratiquement toutes. Non, attendez. Toutes les machines, parce qu'elles ont toutes le même statisme. Mais quand vous avez un événement grave, l'hydraulique c'est le plus souple. Parce que dans cet exemple, toutes les machines vont travailler de la même façon.
Ensemble.
Oui. Sauf si on est déjà sur des limiteurs de puissance. Ça arrive, mais là, on ne peut pas augmenter. Mais c'est un automatisme, c'est-à-dire que vous êtes en pilotage automatique et les opérateurs n'ont rien à faire. C'est la différence entre la fréquence de référence et la fréquence mesurée.
Mais c'est un automatisme qui n'est pas local.
Ah bien sûr, il est sur chaque machine. C'est un automatisme qui se trouve sur chaque machine.
Le thermique, ça a beaucoup d'inertie, ça
ne
peut pas...
Non, non, attendez. Quand vous ouvrez le robinet, vous produisez plus de vapeur.
Mais derrière, il faut chauffer plus.
Oui, mais... Non, mais, attendez. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours à la limite. Donc, on va pas redémarrer une tranche là-dessus. Hein. C'est à la limite. Par contre, si vous avez vraiment un grand pépin de réseau, alors là, c'est l'hydraulique qui réagit en premier. Je vous en citais un tout à l'heure, qui s'est passé en 2006. Et heureusement qu'il s'est passé de nuit.
C'est l'hydraulique, y compris celui qui est au fil de l'eau ?
Ah non, le fil de l'eau, lui, il ne régule rien. Le fil de l'eau, c'est du fatal. Là, vous n'y pouvez rien. C'est le débit d'eau qui passe, point. Et puis, vous ne régulez rien avec le fil de l'eau. Vous régulez uniquement avec les éclusées, essentiellement, et puis éventuellement les stations de transfert d'énergie par pompage et les lacs d'altitude. Alors, le réglage secondaire, parce que ce n'est pas le tout. Une fois qu'on a fait le réglage primaire, bon, toutes les machines ont monté en puissance. Mais s'il survient un deuxième incident, on ne peut plus. Donc, immédiatement après que les machines aient réagi, leur régulation ait réagi, le dispatcher va vous demander de remonter la puissance de certaines tranches de façon à retrouver la capacité de réglage primaire automatique. Donc là, c'est une action volontaire qui est faite par les opérateurs à la demande du dispatcher. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle le téléréglage. C'est-à-dire que sur une tranche de 900 MW, vous dites au dispatcher, parce qu'il vous le demande, que vous fonctionnez à 800 MW, avec une bande de plus ou moins 100 MW. Et le dispatcher, c'est lui-même qui fait le réglage. C'est-à-dire, vous lui laissez la main. Vous êtes dans une centrale, vous voyez monter la puissance par le téléréglage, vous la voyez baisser par le téléréglage. Ça, c'est une disposition, à ma connaissance, qui est pratiquement unique en France. Les États-Unis n'ont pas du tout ce système-là. Et puis alors, vous avez un réglage tertiaire, parce qu'il se peut que le réglage primaire plus le réglage secondaire ne suffisent pas. Donc à ce moment-là, eh bien, on va aussi avoir une action manuelle pour demander à des tranches qui étaient disponibles, mais qui ne tournaient pas, par exemple les stations d'altitude, les stations de transfert d'énergie par pompage, de démarrer. Et pour rétablir les marges de manœuvre du réseau. Alors vous allez voir un cas très théorique. Hein. Voilà. Un cas très théorique. Alors, sachez que sur la plateforme électrique européenne, le maximum qui est pris, c'est une perte de 3000 MW. Et après, en fonction des puissances de chacun des pays, il y a des répartitions qui sont faites. La France participe, par exemple, pour 500 MW. Donc, vous voyez, le déclenchement se produit, paf, vous avez immédiatement une baisse de fréquence. Cette baisse de fréquence est amortie, je vous ai dit, par les machines tournantes. Entre nous, les éoliennes ne sont pas des machines tournantes, elles passent par des interfaces statiques, de même que le photovoltaïque. Donc ne comptons pas sur les éoliennes ni sur le photovoltaïque pour faire du réglage de fréquence. C'est pas ça. Hein. Donc vous avez le réglage primaire qui va opérer, il est automatique. Et vous voyez qu'il va venir compenser. Mais une fois qu'il aura compensé, le dispatcher dit si j'ai un deuxième coup, j'ai plus de réglage primaire. Donc, il va vous demander d'agir sur le réglage secondaire. Soit vous demander d'agir, soit le faire lui-même. En général, c'est les deux. Et puis, si les deux ne suffisent pas, eh bien, on va démarrer un groupe qui viendra en secours. C'est le réglage tertiaire. Et là, ce sont des machines qui sont disponibles et qui peuvent démarrer, et pour l'essentiel, c'est de l'hydraulique.
Mais il n'y a rien d'autre.
Les pays qui n'ont pas d'hydraulique.
Pardon ?
Les pays qui n'ont pas d'hydraulique.
Ah ben, alors ça, il y a des accords pour les aider. En 2006, les Allemands avaient consigné une ligne pour faire passer des bateaux
sur l'Elbe.
Voilà. Elbe. Donc, ils ont fait passer ces bateaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La ligne a été perdue. Ils ont perdu leur ligne. Comme c'était plutôt dans le nord de l'Allemagne, et à l'époque, les éoliennes étaient faites un peu en dépit de bon sens, les éoliennes, quand elles ont vu que la fréquence baissait, se sont découplées. Donc, non seulement...
Il y en avait pour 10 000
MW. Ah oui, oh là là. Et les éoliennes se sont découplées. Donc, ils ont eu leur réglage qui est parti. Et puis, quand les éoliennes ont vu que la fréquence redevenait bonne, elles se sont recouplées. Puis, sans encore baisser, patatras, plus d'éoliennes. Alors ça a été un bazar épouvantable. Et comme c'était en pleine nuit, on a eu de la chance, et c'était un vendredi soir, et ça s'est répercuté sur toute la chaîne qui va de Serre-Ponçon à l'étang de Bain. On a vu partir toute cette chaîne-là au maximum. Et on a su que le lendemain, que ça venait de là, quoi. Donc vous voyez, ça va très vite, et l'hydraulique, et l'hydraulique, heureusement qu'on a de l'hydraulique pour faire face à ce genre de choses.
S'il n'y avait pas eu 5000
mégawatts
hydrauliques
en France... Ah ben, c'était le blackout européen. Ah oui, c'était le blackout européen.
Les Espagnols étaient concernés.
Écoutez, ah oui, j'ai regardé le dernier blackout qui vient d'avoir lieu en Australie, dans la partie sud-est de l'Australie. Alors, c'est pas un gros réseau, mais en Australie, c'est tellement immense qu'ils ont des réseaux par grande région. Et là, ils avaient des éoliennes pour un tiers en gros de production à gaz ou au charbon, je ne me rappelle plus, et puis ils importaient de la région d'à côté le troisième tiers, quoi. Et puis, à un moment donné, il y a eu une tempête. La tempête a coupé la ligne où ils tiraient avec la région d'à côté le tiers de leur puissance. Ils n'avaient aucune marge. En 8 secondes, ils sont passés à blackout. 8 secondes. Vous voyez que là, il faut vraiment réagir. C'est plus que réagir vite, là.
En 2006, les Allemands avaient que 1000 mégawatts de réserve tournante.
Ah oui, oui. Mais cet hiver, sachez qu'on est passé à 1000 mégawatts près. Hein. En France. En France, on est passé à 1000 mégawatts près.
Mais alors, si on n'avait que des éoliennes...
Hein, pardon ?
Vous mettez des bougies.
Oui.
Alors, non, le problème, c'est que, je vous ferai voir tout à l'heure, mais un réseau, c'est un château de cartes. Et si vous vous souvenez de 78, il nous a fallu quand même toute la journée pour remonter le réseau. Hein. Une fois que vous êtes en blackout, il faut repartir de l'hydraulique, reconfigurer les réseaux, redémarrer les centrales nucléaires à partir de l'hydraulique. Non, c'est pas simple. Alors, voilà, le schéma en haut, qui vous explique bien, et en bas, vous voyez un schéma un peu plus réel, quoi. Là, en haut, c'est pour l'expliquer, et en bas, c'est un peu plus réel. Alors là, vous voyez, vous devez reconstituer, avec la réserve primaire, vous devez reconstituer de votre fréquence dans les 30 secondes. Voilà.
Quel est l'écart acceptable? Je crois que vous avez un delta F de 30 secondes. Quel est le delta F sur le réseau?
Vous avez des deltas qui sont de l'ordre de 0,2, 0,3 Hertz. Le 0,5, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Parce qu'à 0,5, vous avez d'autres problèmes qui se posent, c'est vraiment la catastrophe. Non, ce qu'on essaye de faire, c'est... Si on peut le limiter à 0,1, 0,2, c'est bien.
Il n'y a pas une solution, si ça ne s'est pas fait, de baisser la tension?
Si. Alors, ça ne s'est pas fait, mais on a la possibilité de baisser la tension. Si vous baissez la tension...
C'est moins de puissance.
Voilà. Vos récepteurs... Voilà. Mais c'est quand même pas très heureux, parce que... vous savez, on dépend beaucoup maintenant... d'une tension bonne, d'une fréquence bonne, etc. Donc vous avez un tas de machines qui ne fonctionnent pas bien. Alors là, maintenant, voilà ce que c'est que le réglage primaire. C'est un réglage proportionnel. Vous voyez que dans la figure du haut, vous êtes à 50 Hz. À un moment donné, la fréquence descend un peu. Elle vient à F1. Votre régulateur va se déplacer et va ouvrir le robinet de vapeur ou le robinet d'eau dans une centrale hydraulique. Et tant que vous n'êtes pas sur le limiteur, ça va. Si vous arrivez sur le limiteur, alors là, c'est fini. Il ne s'ouvre plus. Si la fréquence, au contraire, monte, eh bien, vous voyez que ce régulateur vous fait baisser, vous fait fermer le robinet pour avoir moins de flux de moteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réserve primaire. Et cette réserve primaire, elle est automatique. Elle est sur chaque machine. Alors, Ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez que ça, alors pour les spécialistes de régulation, c'est une régulation proportionnelle. Si nous avions qu'une machine sur une antenne de réseau, il faudrait qu'on associe à cette régulation proportionnelle une action dérivée pour réagir beaucoup plus vite. Donc là, c'est pas le cas, on est sur des réseaux extrêmement maillés, donc l'action proportionnelle suffit. Les régulateurs sont les mêmes sur toute la plaque interconnectée européenne. Et ce sont ces problèmes-là qui ont fait qu'à certains moments, on n'a pas pu raccorder sur le réseau européen des pays qui n'avaient pas des régulateurs aussi performants. Donc il a fallu qu'ils se mettent au niveau de performance des régulateurs de l'Ouest européen pour pouvoir se raccorder et se découpler du réseau russe. C'était essentiellement ça. Alors, je viens là. Alors, là, j'ai sauté une page. Là, je suis encore sur une page. Mais pourquoi elle saute ? Voilà. Donc, vous avez l'évolution d'un groupe en réglage secondaire. Donc là, le réglage primaire est fini. Et pour retrouver la capacité de réglage primaire, eh bien, le dispatching va vous demander de mettre en place votre réglage secondaire. C'est-à-dire, pour les tranches qui peuvent faire plus de puissance, vous faites un peu plus de puissance à la demande du dispatching. Donc ça, c'est une action volontaire. Et il y a des machines, comme je vous ai dit tout à l'heure, où vous donnez la main au dispatcher en lui disant « je me mets en tel réglage », ou c'est plutôt lui qui vous le demande, avec telle bande de puissance de part et d'autre de ma puissance normale de téléréglage. Et ça, les opérateurs voient la puissance monter, voient la puissance baisser, mais c'est à la disposition du dispatching, ils n'ont pas à y toucher. Sauf si, à un moment donné, ils ont un problème particulier, auquel cas, ils téléphonent au dispatching en disant « je reprends la main, j'arrête le téléréglage ». Hein, ça peut arriver, et ça arrive. La constitution de la réserve primaire donc est assurée par l'ensemble des producteurs européens interconnectés au réseau de transport de la plaque continentale européenne synchrone. Hein, c'est-à-dire que toutes les machines tournent à la même vitesse sur la plaque européenne occidentale. Elle tourne à la même vitesse. On ne peut pas dire que l'Angleterre participe tout simplement parce que la liaison est en courant continu. Donc là, il n'y a aucune... L'Angleterre doit se débrouiller avec ses propres moyens de production d'électricité. Alors, pour dimensionner cette réserve, les exigences européennes, faites par l'ensemble des gestionnaires de réseaux européens, c'est on prend une puissance perdue instantanément de 3000 MW, ce qui correspond en gros aux deux plus gros groupes de production à un instant donné. Et le système français contribue à hauteur de, je vous ai dit 600, vous voyez, avec, maintenant, il y a les nouveaux groupes de production de plus de 40 MW et tous les anciens groupes de production de plus de 120 MW ont l'obligation de réserver une partie de leur puissance pour la réserve primaire. Ça, c'est des règles qui sont faites par l'ensemble des gestionnaires de réseaux européens qui sont dans un groupe qui s'appelle ENTSOE, on l'appelle l'ENTSOE, et c'est là que c'est fixé. Pour votre gouverne, nous avons eu en France une situation assez difficile à gérer à Paluel. Nous avions les quatre tranches de Paluel, donc 4 fois 1300 MW, qu'il a fallu quasiment arrêter presque toutes les en même temps, parce que nous avions sur ces tranches des arrivées de ce qu'on appelle des groseilles de mer. Or, les groseilles de mer, ça n'a rien à voir avec les groseilles, c'est des petites méduses toutes petites qui plastifient complètement les tambours filtrants et qui vous empêche d'avoir l'eau de réfrigération du condenseur. Donc, sitôt que ça arrive, ben, il faut déclencher les tranches. Donc, on a perdu, comme ça, 5200 MW en rien de temps. Donc là, on a un vrai démarrage de toutes les steppes. Hein. C'est clair. Hein. Tout ça, ça part aussi sec. Et on a tiré sur les interconnexions. Bon, là, je reprends ce que je vous ai dit, c'est comment on reconstitue toute cette affaire. Bon, la conséquence de la perte d'un groupe de 1300 en France. Alors, ça, si nous n'étions pas interconnectés avec nos voisins, eh bien, la chute de fréquence serait de 260 mHz. Donc, on serait encore dans la fourchette, plus ou moins 0,5. Et la contribution de chaque groupe au réglage primaire devait être de 13% de sa puissance nominale. Donc ça, ce qui nous gêne, ce n'est pas les 260 MHz, c'est les 13%. Parce que là, ce n'est pas les dispositions constructives des groupes. Donc, comme nous sommes interconnectés au reste de l'Europe, en gros, on a une inertie de 20 000 MW par Hertz, donc la chute de fréquence n'est plus que de 65 mHz pour le même cas, et chaque groupe participe pour 3,2% de sa puissance, et ça, c'est la façon dont sont réglés les régulateurs de réglage primaire. Donc vous voyez que l'interconnexion que je vais vous montrer maintenant, c'est une machine à mutualiser les effets indésirables de la perte d'un ou de deux groupes, et puis c'est aussi une machine, ça donne de la sûreté au réseau européen, et c'est aussi une machine qui permet d'écréter les puissances appelées, parce que les pics de puissance appelées ne sont pas les mêmes au même moment dans tous les pays européens, et donc tous les pays européens ne sont pas obligés de dimensionner leur parc de production pour la pointe. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Marcel Boiteux disait que avec l'interconnexion, on évitait en gros le surdimensionnement de 10%. Ce qui coûte très cher. Hein. Bon, voilà. Alors, les interconnexions, je reprends la boucle de tout à l'heure. C'est tout bête. Et je rajoute, vous voyez, des flèches qui disent ben, « je suis lié avec les pays voisins ». Or, je suis lié, c'est-à-dire que, un, je les aide s'ils sont en difficulté, deux, ils m'aident si je suis en difficulté. C'est ça, hein. Donc, ce sont les règles d'interconnexion, et on a des interconnexions avec les pays adjacents, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Alors, l'interconnexion avec l'Angleterre ne nous sert pas beaucoup parce que là, on est en interconnexion en courant continu, mais on peut tirer aussi depuis l'Angleterre du courant continu. Donc, vous voyez, voilà les situations. Les interconnexions, alors, la puissance des interconnexions, de l'ensemble des interconnexions, peut permettre de faire transiter 12 000 MW. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme.
Tout dans le même sens, là, 12 000.
Si on venait à être en déficit de 12 000 et que les autres puissent se fournir, parce qu'encore faut-il qu'ils puissent se fournir, mais la capacité des câbles permet de faire passer 12 000 MW.
Oui, je voulais vous demander par rapport aux connexions qui sont en continu. Dites que ça n'apporte rien.
Mais... Si, ça apporte de la puissance, mais ça met plus longtemps à réagir parce que vous avez les stations de conversion, ça pose des problèmes. C'est pas aussi réactif que le reste. Alors, vous voyez que le rôle historique, c'était d'assurer la sécurité électrique, la stabilité de fréquence, l'optimisation des puissances installées dans chaque pays et la recherche de l'optimum économique des productions. Bon, ça, c'était le rôle historique. Et puis le rôle actuel, maintenant, vient s'ajouter au rôle historique les aspects commerciaux. Et si vous allez sur le site de RTE, où vous voyez une partie interconnexion. La partie interconnexion qui vous est donnée sur la première page, ce sont les flux commerciaux. Mais il vous faut aller dans la deuxième page chercher les flux physiques qui passent, c'est-à-dire vraiment l'électricité qui passe sur le fil. Et vous verrez que ça n'a strictement rien à voir avec les flux commerciaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est limite avec l'Angleterre, on est limite avec l'Italie. Mais on n'est pas limite avec les autres pays. Alors voilà la France là-dessus. Alors ça, je vous ai mis la France, je crois que c'est l'an dernier. Voilà toutes les interconnexions que nous avons. Oui, vous voyez, je vous ai dit 12, mais on est à 14, on est à 11 gigawatts en import, 14 gigawatts en export. Alors ça, ça a toujours été un mystère pour moi. Pourquoi on n'a pas la même puissance en import qu'en export? Je ne sais pas répondre à cette question. Il faudra que je me renseigne auprès des gens du réseau pour qu'ils m'expliquent un peu. Ben non, parce que normalement, c'est le même fil. Hein. Il transite dans les deux sens. Donc, j'ai jamais compris ça. Peut-être que vous savez. Oh, ça, c'est... Je suis revenu en arrière. Voilà. Alors, ça, c'est la situation de l'an dernier. Nous sommes toujours le premier exportateur d'Europe. Vous voyez que nous avons exporté 71 milliards de kilowattheures, mais nous avons importé 32 milliards de kilowattheures. Donc, nous avons un solde de près de 40 milliards de kilowattheures, plus faible que les autres années, tout simplement parce que sur novembre-décembre, le nombre de tranches nucléaires arrêtées pour vérifier les teneurs en carbone des fonds de générateurs de vapeur ne nous a pas permis d'importer comme on voulait importer, et au contraire, nous a obligés nous a pas permis d'exporter et nous a obligés à importer. Donc on se retrouve avec une année moyenne sur le solde. Les autres années, on est beaucoup plus haut que ça. Donc vous voyez, bon, là on vous donne les chiffres import-export avec tous les pays. Alors, par exemple, si vous prenez un pays comme la Suisse est excédentaire en production l'été, parce que c'est la fonte des neiges, parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Mais par contre, l'hiver, la Suisse est en déficit de production. Elle n'a plus que ses centrales nucléaires, dont deux sont arrêtées actuellement pour des arrêts de longue durée. Donc, les Suisses sont très inquiets. Hein. En ce moment, ils sont très inquiets sur ce qui se passe, et puis sur ce qui se passe aussi en Allemagne. Et si vous regardez ce point-là, on vous donne là... Les couleurs vous disent quels sont les pays qui exportent le plus. Donc vous voyez que la France est verte, foncée, c'est elle qui exporte le plus en Europe. Supérieure à 30 TWh, largement. Et puis vous avez des pays comme l'Italie, vous voyez qu'ils sont importateurs pour 30 TWh. Donc l'Italie va tirer beaucoup sur la France, mais va tirer sur l'Allemagne via la Suisse. Et je vous montrerai une photo à la fin de la nuit blanche en Italie, qui était surtout une nuit noire à la suite d'un incident. Alors voilà le réseau synchrone européen. Vous voyez que tout ce qui est bleu, c'est le réseau synchrone européen. Ensuite, vous avez un réseau synchrone scandinave, qui est vert pétrole, là-haut. Vous avez un réseau synchrone en Angleterre, et vous avez le réseau synchrone de l'Irlande. Avec des pays qui ne sont pas encore raccordés parce qu'ils n'ont pas les mêmes régulateurs que les nôtres. Vous voyez, alors, je ne sais plus si ça s'appelle encore l'Albanie, mais l'Albanie. Vous avez le Danemark, qui est plutôt réglé avec la Norvège. Et puis vous avez les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui sont encore raccordés sur le réseau russe. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce qu'ils veulent se raccorder sur le réseau européen. Donc je crois que ça va se faire. Et puis l'idée actuellement, c'est d'essayer de raccorder les pays du Maghreb sur le réseau européen. En tout cas, c'est le souhait des pays du Maghreb, hein, parce qu'ils ont de gros problèmes de tenue de fréquence, etc. Donc, ils voudraient se raccorder sur notre réseau. Et, mon Dieu, on cherche à voir comment on peut faire pour les raccorder.
Mais les pays comme... j'ai vu, il y avait un petit point rouge sur Mac, là. C'est raccordé comment, là ?
Je reviens ?
Malte.
Mais il y a un câble qui part. Alors, il y a un câble qui part qui relie Tanger et la pointe d'Espagne. Donc, le Maroc commence à être interconnecté. Mais... les autres qui partent du Maroc vers la Tunisie et l'Algérie, ils n'existent pas. Ce sont des projets. Mais vous avez déjà de l'électricité qui peut transiter dans les deux sens entre l'Espagne et le Maroc.
Il paraît qu'en 2006, on a sèchement coupé le Maroc sans leur demander leur avis.
Oh, c'est possible. Hein. C'est possible. Non, mais c'est possible. Hein. Et... Vous savez, il y a des moments où c'est... Alors, les renforcements des interconnexions, ça, c'est un document qui est donné par RTE. Les chiffres, là, vous ne les voyez pas bien, mais vous les verrez mieux sur le PDF que je vous ai laissé. Vous voyez, on va aller approvisionner l'Irlande. On va doubler la capacité d'interconnexion avec l'Angleterre. On va augmenter l'interconnexion avec la Belgique et les Pays-Bas. Avec l'Allemagne, il y a un projet de liaison sous-marine entre la France et l'Espagne, mais par le golfe de Gascogne, pour tomber sur la Galice, le Pays Basque. Les Pyrénées, c'est fait. Savoie-Piémont, c'est toujours dans les... l'idée, c'est de le faire passer par le tunnel du Fréjus, qui prend beaucoup de retard. Il y aura encore des renforcements avec la Suisse aussi. Pardon ?
Le tunnel du Fréjus, c'est autre chose. C'est celui qui part de Modane pour aller...
Il fait 54 km de long. Mais il n'est pas fait, le tunnel. Hein. Il y a juste les descenderies qui sont faites, et les repérages et tout, mais on est loin d'avoir le tunnel. Hein.
L'actuel tunnel du Fréjus...
Ah, mais non, là on ne peut pas passer de câble.
C'est comme le tunnel sous la Manche. Hein.
Ah, non, là on ne peut pas passer de câble. L'actuel tunnel est pas... Puis, il faudrait pouvoir renforcer les lignes de la Maurienne jusqu'au tunnel. Or, la vallée de la Maurienne n'en veut pas. On a beau leur faire voir que la Maurienne serait beaucoup plus jolie avec une nouvelle ligne qui permettait de démonter les anciennes, parce que les anciennes ne sont pas très jolies, ben, ils n'en veulent pas quand même. Donc voilà. Alors... Ah ben oui, alors France-Irlande, je ne sais pas comment on va faire pour l'atterrissage, où on va aller prendre le jus, mais vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, les deux gestionnaires de réseau irlandais et français signaient un accord avec derrière, il y avait Hollande, et de l'autre côté, le chef d'État irlandais qui était là pour superviser la signature. Mais là, ce sera des câbles sous-marins, donc la longueur des travaux va être fixée par les stations de conversion.
Tous les champs éoliens offshore.
Alors, je vais vous dire, moi je suis en ce moment, je titille le RTE, parce que sur le schéma directeur de réseau pour les 10 ans à venir, le schéma décennal directeur de réseau, ils ont prévu des investissements à hauteur de 10 milliards d'euros. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux ? Parce que quand je regarde les flux physiques qui transitent, on est loin des capacités maximum des câbles, sauf l'Italie et l'Angleterre. Donc je leur dis, je ne comprends pas, d'une part. Et deuxièmement, en 1998, l'État a transféré le réseau très haute tension en pleine propriété à EDF, parce que nous n'étions que concessionnaires. Donc là, il a transféré le réseau en pleine propriété et la valeur des actifs a été fixée à 70 milliards de francs. Donc tous les actifs du réseau de 98 représente 10 milliards d'euros. Donc, quand on me raconte qu'on va faire 10 milliards d'euros de travaux, je dis ça équivaut aux actifs qu'on avait en 98. Et depuis 98, l'inflation n'a pas été terrible. Hein. Donc, ça me pose des problèmes parce que ils ont fait un schéma, une prévision de consommation d'électricité qui, en France, baisse dans les 5 ans à venir. Ce qui, à mon avis, est faux, complètement faux. Donc, ils disent que ça baisse, il leur faut plus de réseaux pour baisser la consommation d'électricité. Alors, je ne comprends pas bien, et je leur ai envoyé un mot cette semaine en disant « Expliquez-moi, parce que j'ai du mal à comprendre ». Ils ne m'ont pas répondu encore. Alors, le réglage de la tension, c'est le réactif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est extrêmement simple. Pour régler la tension du réseau, eh bien, il suffit soit d'augmenter le courant dans les inducteurs, c'est-à-dire le courant d'excitation. Si la tension est trop basse par rapport aux 400 kV, soit, si la tension est trop haute par rapport aux 400 kV, réduire le courant d'excitation pour absorber du réactif. Ça, on n'aime pas beaucoup le faire, donc on le fait de façon le plus souvent par des fax. Alors ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est, il y en a 36 modèles. Et c'est simplement, je vous dis, avec des thyristors qui mesurent, on vous branche, ça branche des portions d'inductance ou des portions de capacité. Bon, ça marche bien, mais ça coûte très cher. Et puis, vous avez des machines qui fonctionnent, des machines synchrones, qui fonctionnent en compensateur synchrone. C'est-à-dire qu'ils vont soit produire que du réactif, soit n'absorber que du réactif. Si vous regardez la centrale de Martigues, sur les 10 dernières années, avant que les tranches soient réutilisées en cycle combiné gaz-vapeur, elles fonctionnaient en compensateur synchrone, c'est-à-dire qu'elles élevaient la tension à Martigues pour avoir une tension correcte à Nice. Donc il fallait monter le niveau de tension. De même à Biblis, en Allemagne, les groupes turbo-alternateurs de Biblis, qui est arrêté en tant que centrale nucléaire, fonctionnent aujourd'hui en compensateur synchrone. C'est très ancien, hein, le compensateur synchrone.
Il y a beaucoup d'industries qui consommaient beaucoup, qui se payaient
Non, mais les compensateurs synchrones, c'est connu depuis très longtemps, et ça marche très bien. Alors, là j'en viens et je vais bientôt terminer. Les ENR aléatoires, l'éolien et le PV, j'ai oublié de vous mettre une courbe d'évolution d'éolien, de courant éolien ces derniers jours. Vous verriez les variations de courant de puissance dans la journée, c'est effrayant, quoi. Vous avez des gradients de puissance qui font 2-3 000 MW en un quart d'heure, hein. Donc, ce sont des machines électriques à qui on essaye, pour les modernes, à qui on essaye de faire délivrer une tension quasi constante, mais qui ont une fréquence et une intensité variables. Donc, bien entendu, on ne peut pas les raccorder sur le réseau. Pour les raccorder sur le réseau, il faut faire une interface statique qui d'abord redresse tout ça, tout ce méli-mélo électrique, et ensuite qui l'ondule. C'est-à-dire qu'ils le mettent en 50 Hz. Eh bien, elle n'assure pas le service fréquence, c'est-à-dire le service système qui est lié à la fréquence, ça ne peut pas être assuré par une interface statique. De même qu'elle n'assure pas ce qu'on appelle, nous, les électriciens, les courants de court-circuit. Les courants de court-circuit, c'est l'inverse de l'inertie, c'est-à-dire que quand vous avez une machine qui tourne, elle a une inertie, elle ralentit. Mais à un moment donné, quand elle est arrêtée, il faut la mettre en service. Et donc là, il vous faut envoyer un sacré paquet de courant, d'intensité. Nous, on avait, avec Gérard, les moteurs des pompes primaires, c'est des moteurs qui font 5 MW chacun et qui démarrent en direct. Donc, c'est pas rien. Et il nous faut une sacrée puissance de court-circuit. Et ça, derrière des intervalles statiques, il n'y a pas de puissance de court-circuit. Alors, aujourd'hui, Enercom dit « Oui, mais j'ai fait un moyen de réglage de fréquence. » Alors, ils ont effectivement un comparateur entre 50 Hz et la fréquence réelle. De là, ils partent. Alors, ça sous-entend déjà que l'éolienne ne fonctionne pas à pleine puissance, c'est-à-dire qu'il garde de la puissance au cas où. Et ce qu'ils font, c'est que ce régulateur fait varier le pas pour prendre plus de puissance ou pour en prendre moins. Mais le problème, c'est que le pas, nous, ce qu'on fait varier, c'est le débit de vapeur ou le débit d'eau, le débit de vent. À part éole, il n'y a pas grand monde qui sait le faire varier. Donc, c'est un réglage. Nous, on dit que c'est un pseudo-réglage primaire, mais qui remplace pas le réglage primaire.
Ça marche comme les centrales au fil de l'eau.
Pardon ?
Comme les centrales au fil de l'eau.
Ah ben non.
Alors, attendez. Oui. Sinon, ça marche comme une centrale au fil de l'eau. C'est du fatal. Hein. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est du fatal. Alors, vous aviez les anciennes, les éoliennes de petite puissance, les anciennes, pas si anciennes que ça, 750 kW, elles, c'était des génératrices asynchrones. Oui, alors, donc, ça veut dire que quand la vitesse du vent les entraînait au-delà du synchronisme, elles se couplaient et elles débitaient. Et si la vitesse du vent baissait, à ce moment-là, elles se découplaient et puis on les avait plus. Mais elles nous posent problème parce que dans un sens, elles produisent de la puissance et dans l'autre sens, elles absorbent du réactif. Parce qu'il faut magnétiser le circuit, donc on a les deux. Donc moi je dis actuellement, que ce soit le photovoltaïque ou que ce soit les éoliennes, on n'a aucun service système, ni fréquence, ni tension. Donc, et ni puissance de court-circuit, ce qui est encore plus grave. Alors quand je vois l'ADEME qui s'est promené tout l'an dernier en disant on peut être en 2050 100% énergie renouvelable, je leur dis, mais et ça, comment vous faites? Alors bon, ils sortent des trucs à bras cadabra, mais ça marche pas, quoi. Hein.
Avec les systèmes smart grid et stockage d'énergie sur hydrogène, gros bio d'hydrogène, vous pensez qu'il y a quand même des solutions?
Oui, alors, c'est un moyen. C'est-à-dire que ils disent, avec les éoliennes ou avec le photovoltaïque, on va alimenter des électrolyseurs, on va faire de l'hydrogène. Bon, on va récupérer quelque part du gaz carbonique. Et puis tout ça, alors l'hydrogène, bien sûr, on le fait avec l'électrolyseur, on le comprime pour qu'il tienne le moins de place possible. Le CO2, on le comprime aussi. Et puis, derrière, après, on décomprime le CO2 et l'hydrogène. On met ça sur un réacteur chimique catalytique de Sabatier. Et ça fabrique du méthane et de l'eau. C'est... Alors, le problème, c'est que si vous faites ça, d'abord, l'hydrogène qui est obtenu par l'électrolyseur, il est pur. Mais quand vous allez le comprimer, vous le comprimez de façon adiabatique. Donc il s'échauffe. Il vous faut le refroidir. Parce qu'il se chauffe trop. Donc il faut le refroidir. Le CO2, ils disent on le prendra à la sortie des méthaniseurs agricoles. Je leur dis non. Dans un réacteur de Sabatier, vous ne pouvez pas mettre du CO2 qui est complètement pourri. Il vous faut prendre du CO2 qui soit acceptable dans ce type de réacteur. Donc, eux, ils étaient là-dessus. Mais imaginons, il faut le comprimer aussi. Compression adiabatique, il faut le refroidir parce qu'il s'échauffe. Tout ça, vous le mettez dans un bidon. Et puis derrière, parce que vous ne pouvez pas le stocker en souterrain, l'hydrogène est un gaz qui diffuse à peu près à travers tout. Donc si vous le stockez en souterrain, il va ressortir. Donc vous les mettez dans des bidons Et puis, quand vous avez fait votre CH4, alors quand vous voulez faire du CH4, vous êtes obligé de ressortir cet hydrogène et ce CO2. La détente est adiabatique, donc elle refroidit et ça gèle. Donc il faut chauffer les tuyaux. Donc vous perdez de l'énergie. Et puis, quand vous avez fait tout ça, vous le faites passer dans un cycle combiné à gaz et vous avez un rendement de 60%. Bon, donc quand vous faites la somme de toute la chaîne des rendements, vous arrivez à des rendements de 15% au mieux. Et il n'y a aucun démonstrateur industriel, aucun. Donc si vous faites du 15%, ça veut dire qu'il faut que vos éoliennes et votre photovoltaïque vous produisent en gros 10 kilowatts pour en récupérer un. C'est impossible. On marche sur la tête. Alors, on a beau leur expliquer, pourtant, ce n'est pas des gens idiots, hein, mais chez eux, l'idéologie a pris le pas sur la physique. Quoi.
On peut penser
qu'il y a un meilleur rendement quand même avec le système des piles.
Pardon ?
L'hydrogène dans une pile à combustible.
Alors, l'hydrogène, on peut aussi l'utiliser, mais ils n'y ont pas pensé. L'hydrogène, parce que quand vous faites de l'électrolyse, vous avez de l'hydrogène et vous avez de l'oxygène, forcément. Vous avez une électrolyse de l'eau et vous pouvez comprimer l'hydrogène, comprimer l'oxygène et faire réagir ça alors dans une pile à combustible, avoir de la chaleur si elle est stationnaire et de l'électricité. Mais ils n'en parlent pas dans leur papier. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a un banc expérimental à Belfort, à l'école.
Ah, mais il y en a. Il y en a. Non, mais il y en a. Mais il faut voir les rendements. Hein.
On passe pas par le cycle thermique.
De toute façon, vous arrivez toujours à la fin sur un cycle combiné gaz. Et donc, vous avez une partie réacteur et vous avez une partie vapeur et vous êtes sur du cycle de Carnot. Donc, vous perdez beaucoup de choses. Et ça, moi, je ne vois pas. De toute façon, c'est une vue de l'esprit d'avoir 100%. Parce que, alors, en plus, ça vous fait une éolienne tous les 500 mètres. Hein. Bon, il faut voir la saturation des gens va vite être atteinte. Hein.
Le monsieur là qui actuellement pilote l'ISN, c'est lui qui, dans son poste précédent, il a promis de faire des éoliennes en mer avec des prix de 20 kWh.
Alors écoutez, les éoliennes en mer.
À 250 euros le mégawatt-heure, et c'est la moitié de la réalité.
Alors, les éoliennes en mer. Il y en a, par exemple, dans le nord-est de l'Allemagne et il y en a au Danemark. Mais ce sont des éoliennes en mer qui sont fixées parce que les fonds sont très peu profonds. C'est plat. Voilà. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas des fonds marins hauts. Donc, il va falloir soit les fixer très profondément, soit les mettre flottantes, ce qui est un autre paire de manches. Et puis, derrière, ces éoliennes, les trois appels d'offres qui ont été faits, elles sortent du kilowattheure du mégawattheure à 250 euros.
C'est ce qu'ils disent, mais c'est probablement la moitié de la réalité. Ils ont déjà oublié les connexions.
Ah, mais non, mais attendez, c'est fait exprès, ça. On ne parle pas de tout, là. On parle juste de l'éolienne. Après, les connexions, les transfos et tout le machin, on n'en parle pas. Mais c'est pour ça que les éoliennes en mer en France, moi, je trouve que c'est une hérésie. Autant, pourquoi pas au Danemark ou en Allemagne du Nord, mais chez nous, on n'a pas les fonds qu'il faut, quoi. Et il y a des oppositions sérieuses de la part des pêcheurs, de la part des navigateurs, etc. Donc, si vous faites ça, ben, il vous faut rajouter des réseaux supplémentaires. Alors, moi, je pense que la réponse aux 10 milliards d'euros que demande RTE pour les 10 ans à venir, c'est ça. C'est ça, parce que les réseaux supplémentaires coûtent très très cher. Ils vont tous être enfouis, parce que les éoliennes en mer, c'est enfoui, jusqu'à l'atterrissage. À l'atterrissage, il faut faire un poste. Et puis dites-vous une chose, les éoliennes à terre, elles ont des facteurs de charge de 20%, 21-22%. 21-22%, ça veut dire que si vous avez une éolienne qui fait en puissance nominale 1 mégawatt, eh bien, elle vous produira l'équivalent d'un mégawatt 22% du temps. Alors, ce sera des puissances intermédiaires, mais si on le ramène, ce sera ça. Ces éoliennes-là, ce sont des petits alternateurs, si vous voulez, assez complexes, puisque pour limiter le courant qu'on utilise dans l'inducteur, on a des aimants permanents dopés aux terres rares, ce qui permet de changer le point de Curie, mais il faut quand même avoir des bobines autour pour le courant de contre-réaction, pour le flux de contre-réaction. Et si vous prenez un alternateur de 900 MW ou de 1300 MW, vous avez, d'abord, là, vous avez un facteur de charge qui est de 82-83% par an. Bon, c'est-à-dire qu'il vous fournit 900 MW pendant 80% du temps. Le cuivre qui est à l'intérieur du stator, il est refroidi directement par de l'eau qui passe dans les barres de cuivre. Et l'eau est refroidie à l'extérieur. Le cuivre qui est sur le rotor ne peut pas être refroidi par de l'eau, mais on le refroidit par de l'hydrogène. Et on admet comme ça des densités de courant très élevées avec ces systèmes-là. Si vous prenez vous ne pouvez pas refroidir une éolienne de cette façon-là. Donc, l'éolienne qui va fonctionner 22% du temps à puissance nominale va nécessiter beaucoup plus de cuivre pour fournir sa puissance qu'un groupe turbo-alternateur. En gros, j'ai fait le calcul, c'est à entre 10 et 12 fois plus de cuivre. Et pour les liaisons, eh bien, c'est 4 fois plus d'aluminium. C'est-à-dire que vous avez une liaison en aluminium qui va être... Le tuyau, il est fait pour passer la puissance maximale, mais qui va être utilisé 20% du temps. Donc, vous avez un gaspillage très fort de cuivre et d'aluminium. Et ça, personne n'en parle jamais. Dans la LTE, vous avez vu qu'il y a un chapitre complet sur la sobriété, l'utilisation rationnelle des matières premières. À côté, on parle des éoliennes à tout va, mais personne a dit non, attendez, là, vous ne pouvez pas écrire ça. De plus, quand les éoliennes sont prévues pour durer 20 ans, quand vous les démontez au bout de 20 ans, il faut, les terres rares coûtent très cher. Et ces terres rares, il faut essayer de les récupérer, de les recycler. Oh là! Ça y est. Il faut essayer de les recycler. Alors là, le BRGM actuellement fait un banc d'essai qui s'appelle Aster pour essayer d'extraire les terres rares des aimants permanents des éoliennes. Mais quand j'ai vu le schéma de leur truc, ça va pas être gratuit, hein, la récupération des terres rares. Et le pays qui possède les grands gisements de terres rares, c'est la Chine. Voilà. Donc, nous, on en a très peu. Alors, vous voyez qu'en Allemagne, où ils ont beaucoup plus d'éoliennes que nous, ils arrivent à des gradients de valeur qui sont de 30 000 mégawatts par heure. Par heure. Donc, ça veut dire que quand vous avez 30 000 mégawatts qui s'effacent, vous êtes obligé d'avoir un soutien qui vient compenser. C'est pas d'une simplicité aussi simple. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Bon, les solutions de stockage ne sont pas au rendez-vous, ça c'est clair, et elles ne seront pas au rendez-vous avant plusieurs années. Bon, si on veut faire plus de NR, il faut renforcer de façon énorme le réseau de transport, le recours à des productions de soutien qui sont plus ou moins bien utilisées. Aujourd'hui, elles sont plutôt mal utilisées, ce qui fait que les opérateurs les passent en investissement échoué et on les arrête. Donc vous voyez que le problème est très très important, et je pense que si vous lisez la presse actuellement, en Allemagne, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant on va dans le mur avec notre transition énergétique, on va droit dans le mur.
Les Allemands moyens payent déjà leur
cours. Oui, parce que il faut voir que cette énergie, elle est payée par le consommateur, et elle a la priorité sur les autres. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enlever tout. Donc, comme en Allemagne, ils en ont beaucoup, eh bien, à ce moment-là, si vous regardez le ménage allemand, il paye son kilowattheure deux fois plus cher qu'en France.
Deux fois, exactement.
Ouais, deux fois plus qu'en France.
Vous avez juste bon chemin avec la CSPE, là.
Ah ben oui, non, mais attendez. Nous, on est bien partis. On est bien partis. Mais je crois qu'à un moment donné, on va revenir à la raison, et ça, je pense que dans les 3-4 ans qui viennent, on reviendra à la raison là-dessus. Parce que je crois que il faut dire une chose, l'éolien et le photovoltaïque ne pourront réellement rentrer en jeu que lorsque l'on saura stocker l'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Toutes les études qu'on fait dans tous les domaines, on ne sait pas stocker l'électricité. Les batteries, c'est des gros engins qui ne sont pas aussi innocents qu'on le dit, parce que les batteries qui explosent, ça existe. Surtout les batteries les plus performantes aujourd'hui, ce sont les plus fragiles. Donc, c'est... Et puis ça coûte très cher. Ça stocke peu. L'ADEME disait qu'il faut faire 30 gigawatts de STEP. D'accord. Eh bien, allez expliquer ça aux gens chez qui on va les faire. On va noyer des vallées, on va avoir des réservoirs supérieurs. C'est impossible. On ne peut plus faire de STEP.
On en a 6
Oui. Oui, on a quelques steps, oui.
Le photovoltaïque indépendant.
Attendez, je viens vous voir parce que je suis un peu dur d'oreille.
Le photovoltaïque indépendant au niveau de l'utilisateur, est-ce qu'il a pas une...
Alors, oui, les pouvoirs publics aujourd'hui encouragent l'autoconsommation du photovoltaïque. C'est-à-dire que on voudrait que les gens qui installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit autoconsomment la production de photovoltaïque. Mais ils ne sont pas d'accord, parce que quand on regarde le prix d'achat du photovoltaïque renvoyé sur le réseau d'EDF et le prix du kilowattheure acheté à EDF, il vaut mieux renvoyer tout ce qu'on produit à EDF et utiliser le réseau, parce que... voilà. Donc, on dit on veut encourager, mais il n'y a rien pour encourager, quoi. Et je vais terminer par un point qui nous pose des problèmes aussi, c'est que ces énergies sont souvent raccordées au réseau de distribution, et le réseau de distribution est obligé de faire ce qu'on appelle des smart grids, c'est-à-dire essayer de consommer cette énergie dans une poche déterminée de consommation, mais si on n'arrive pas à la consommer dans cette poche, eh bien on a du refoulement à travers les postes sources, c'est-à-dire les postes qui vont du 225 au 63 kV. Or, on s'était toujours interdit en électricité de faire du refoulement d'énergie via les postes sources, parce qu'à ce moment-là, ça sème le bazar dans le réseau de RTE, parce qu'il ne sait plus ce qui va arriver ou pas arriver. Donc là, il y a un problème à régler, mais on commence à voir pas mal de refoulement. Donc c'est problématique. Et
les harmoniques des onduleurs, comment ça se passe?
Les onduleurs, alors le problème...
Les harmoniques sous le réseau.
Alors les onduleurs, leur problème, c'est que malgré les soins qu'on y apporte aujourd'hui, hein, par rapport aux premiers onduleurs qu'on a eus, qui faisaient en fait c'était du haché, hein, c'était pas de l'alternative, c'était de l'alternative mais haché. Donc après, quand on le passait réellement en alternatif, c'était un alternatif très pollué par les harmoniques. Aujourd'hui, les onduleurs sont équipés d'un certain nombre d'appareils qui font que on arrive à avoir une onde moins pollué par les harmoniques. Donc ça pose moins de problèmes, par exemple, sur les micro-ordinateurs. Parce que les harmoniques, ils aiment pas. Hein. Et donc, je crois que côté électrique onduleur, on arrive. Mais un onduleur, aujourd'hui, ça dure 10 ans. Hein. Un panneau photovoltaïque, ça dure 20 ans. Donc, vous voyez... Et alors, ce qu'on a, c'est que, comme on donne la priorité à ces énergies renouvelables, toutes les machines qui viennent soutenir ces énergies renouvelables, quand elles disparaissent, ces machines, elles ne tournent plus assez dans l'année, et donc elles ne couvrent plus les coûts d'amortissement. Donc, qu'ont fait l'ensemble des opérateurs européens? Ils ont arrêté pour 50 000 mégawatts de cycles combinés à gaz qui étaient quasiment neufs. Qui étaient quasiment neufs. Et qu'ils ont passé en investissement échoué. Résultat, aujourd'hui, on s'approche de plus en plus d'un blackout, mais là, à l'échelle européenne. Le blackout, c'est-à-dire on perd complètement l'électricité.
Les 10 000 mégawatts allemands qui ont manqué en 2006...
On est passé ric-rac, ric-rac. Mais là, même en France, si en 2012, vous vous rappelez, février 2012, on était arrivé à 102 000 mégawatts. Eh bien, cette année, quand il a fait moyennement froid au mois de janvier, parce qu'ils disent froid exceptionnel, non, il ne faut pas pousser, c'est les autres hivers qui étaient exceptionnellement doux. On a appelé 93 000 mégawatts, il restait 1000 mégawatts de réserve. Ah ben on était sur le fil du rasoir, hein. Et on tirait 10 000 mégawatts, donc on tirait le maximum de l'importation. C'était vraiment le... Et puis je vous ai mis ça pour vous dire, voilà, attendez. Voilà ce que c'est un réseau électrique. Oh, ça, elle ressort pas bien. Hein? Un système électrique, c'est un château de cartes. Si vous perdez une ligne quelque part, vous pouvez vous dire que tout va dégringoler. Mais ça dégringole. Hein? Et je vais vous faire voir le cas de l'Italie. Ça va très vite. Pour ceux qui se souviennent de décembre 78, ça s'est passé en l'affaire de 15 secondes. Et puis voilà. Et puis après, il a fallu une journée pour remonter le réseau. Et c'est pas simple de remonter le réseau. Alors je vous pose cette... Regardez la nuit blanche. Alors c'était la nuit blanche, c'est-à-dire c'était la nuit en Italie ou à Rome, dans les grandes villes d'Italie. On laissait tout éclairer parce que c'était la fête. C'était la nuit blanche. Alors, regardez... Vous avez la France, là. Vous voyez la France. Hein? Vous voyez l'Espagne. Vous voyez la partie Hollande, Benelux, une partie de l'Allemagne, l'Angleterre. Regardez la péninsule italienne. La nuit blanche. C'est prise par satellite. Hein? Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est simple. Ils tiraient beaucoup d'énergie depuis l'Allemagne vers l'Italie en traversant la Suisse. Et en Suisse, à un moment donné, il y a un arbre très haut qui s'est couché sur une ligne, la ligne très haute tension qui alimentait l'Italie, et l'Italie s'est retrouvée dans le noir. Et il a fallu pratiquement toute la nuit à tous les pays européens pour rétablir un semblant d'électricité en Italie pendant leur nuit blanche. Vous voyez, voilà, la nuit blanche, le 78 en France, 2006 en Allemagne. Donc, un réseau électrique, c'est hyper fragile. Hyper fragile. Le système électrique, c'est pas rien, quoi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, là? Je vous ai mis ça pour la fin, ou presque. Regardez les pylônes que nous avons aujourd'hui. Alors ça, le pylône qui est là, vous voyez, c'est un pylône d'ancrage. Hein. C'est-à-dire que vous voyez les isolateurs droits, comme ça, et vous avez le courant qui passe par-dessus et qui vient rejoindre. Chaque fois que vous devez faire un angle, vous utilisez un pylône d'ancrage. Ou quand vous avez une grande longueur, vous avez 10 pylônes avec les isolateurs suspendus, puis au bout de 10 pylônes, vous avez un pylône d'ancrage pour que ça tienne. Alors voilà ce qu'on propose à terme, dessin d'architecte. Un pylône comme ça. Bon, c'est un dessin d'architecte. Voilà, comme les, quand on vous propose la maison témoin. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis de votre patience. J'espère que je vous ai amené quelques éclairages dans ce problème de système électrique.
Bien, merci M. Fugère pour cette conférence passionnante. Une question ou deux peut-être avant de se quitter, avant de vous les